Cet épisode vous est proposé dans le cadre d'une sélection spéciale anniversaire des Pieds sur Terre.
Les Pieds sur Terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les Américains qui créent des mots pour tout les appellent alloparents ou parlent d'alloparenting. Il s'agit de définir ce type d'attention, d'affection ou encore de soins, bref, comme ils disent, de care, qui émane d'un individu, un homme ou une femme, à l'endroit d'une personne plus jeune, un enfant souvent, et qui n'est pas son descendant. On dira, nous, plus simplement, parents de substitution, parrain, marraine, nourrice, oncle ou tante, au sens oriental, c'est-à-dire un adulte proche sans lien de parenté. Ou bien on tournera autour en parlant d'amour maternel, mais ce serait supposer qu'il existe un sentiment aussi spécifique que l'amour maternel et qu'il n'est pas une construction culturelle, sociale ou un réflexe neurobiologique. Ce sont pourtant des rencontres déterminantes, des femmes ou des hommes qui sauvent des vies en montrant un beau jour à des enfants ou des ados à quoi ça ressemble, l'amour, l'affection, la tendresse, qu'on l'appelle maternelle ou pas, en leur disant ainsi que ça existe, câliner, faire attention, se soucier, serrer dans ses bras, ou encore chahuter ensemble, faire des surprises, des farces, des jeux incroyables, s'occuper d'eux, prendre soin, faire des gâteaux et des bisous, des parties de foot ou pire de Monopoly, ce qui est, avouons-le, un sacrifice ultime de l'amour parental. Je n'ai pas trouvé grand-chose dans la littérature qui raconte ce genre d'histoire, à part Madame Rosa qui répond à sa façon à la question du jeune Momo, est-ce que c'est possible de vivre sans amour, et quelques autres nourrices au cœur fondant ou qui arrivent avec un parapluie et une malle pleine de jeux fabuleux, d'histoires tendres, des magiciennes de la vie qui transforment celles des enfants malheureux en les couvant des yeux ou bien en leur fourrant des sucreries dans la bouche, comme on fait en Iran en disant « Bohor, bohor ». C'est d'elle et d'eux qu'on parle aujourd'hui, les alloparents. C'est pas très beau comme mot pour de si belles personnes et de si bons sentiments. Allez, on y va, c'est le moment de faire la paix et de parler d'amour. Et c'est évidemment Élise Andrieux qui nous raconte ces deux histoires d'amour qui me tiennent aussi beaucoup à cœur, j'avoue, parce que je les connais bien, Mathilde et Cathy, tout de suite, dans les pieds sur terre d'autres mères que la sienne.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Difficile de parler d'un premier souvenir, alors qu'en fait, la problématique, c'est que j'en ai pas. En tout cas, avec ma mère. J'ai cherché longtemps, et beaucoup, et je n'en ai pas trouvé. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs très précis d'une autre mère que la mienne et qui m'a accueillie régulièrement quand j'étais enfant, je dirais de 6 à 10 ans à peu près. Je m'appelle Mathilde, j'ai une quarantaine d'années. Je viens d'un milieu rural, catholique, pratiquant, grosse fratrie. On est 7 enfants. Il y a d'abord 3 garçons et puis après 4 filles. Je suis la deuxième des filles. Il y a à peu près un enfant tous les 2 ans. On a habité en ville dans les Pyrénées pendant les premières années. Et après, on a atterri à la campagne quand j'avais à peu près 6 ans. Et à ce moment-là, mon père, pour des raisons professionnelles, était absent la plupart du temps. Mon père était représentant, donc voilà, il était sur les routes. Et ma mère a eu à gérer 7 enfants dans une maison au milieu de nulle part, dans laquelle elle ne voulait pas être. Et sa vie était dure parce qu'elle était l'aînée d'une famille de paysans. Elle a eu 6 frères et sœurs et elle a géré ses 6 frères et sœurs. Donc elle est devenue la mère de ses frères et sœurs. Puis elle s'est mariée et là, elle en a eu 7 autres. Et c'est pas ce dont elle avait envie. Elle avait le rêve d'être médecin. Mais elle n'a pas fait d'études. Et quand j'étais adolescente, elle me disait qu'elle ne voulait pas avoir 7 enfants. Mais que mon père étant catholique, pratiquant, pas de contraception. Et donc elle a eu les 7 gamins. Et ça signifie qu'elle s'est un peu exténuée à la tâche, dans une grande solitude. On ne peut pas dire qu'elle ne s'est pas occupée de nous, elle s'est occupée de nous en ce sens qu'elle nous a entretenus, au sens de vraiment l'entretien, lavé, nourri et emmené à l'école. Donc on était dans une école catholique et il y avait dans ma classe une jeune fille qui s'appelait Isabelle. Et voilà, on s'entendait bien avec Isabelle et ma mère a rencontré sa mère et s'est exprimé son désarroi ou sa fatigue ou son épuisement. Et elles sont convenues que je pouvais aller chez Isabelle, ça faisait un enfant de moins à gérer pour ma mère. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai fait une première fois qui s'est suivie d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième fois, et assez régulièrement, quand ma mère était trop fatiguée, elle m'envoyait là-bas, et je passais une série de plusieurs semaines dans cette famille, donc de cette femme qui s'appelait Monique. Monique, c'est une brune aux yeux noirs, très jolis cheveux, courts mais épais et souples, et un teint plutôt mat. Je me souviens qu'elle se maquillait, ce que nous on fait pas, et qu'elle avait pas d'oreilles percées, mais elle avait des clips, elle avait des boucles d'oreilles clippées, et elle avait du rouge à lèvres, c'est vraiment le rouge à lèvres dont je me souviens, un peu brun, et c'était joli. Oh, elle avait des bottes à talons en cuir qui allaient jusqu'aux genoux avec un grand zip sur le côté. Elle avait des pulls tout doux, plus l'hiver. Hein. Elle avait des pulls genre angora, des poils, des trucs comme ça. Et je me souviens d'une jupe écossaise, c'est marrant, mais dans les tons beige. Oh. Ouais, non, elle était habillée de façon harmonieuse, avec goût. On sentait qu'elle faisait attention. Elle était simple, mais elle y faisait attention. Et je pense que je suis arrivée avec une valise, des vêtements, mais néanmoins, je mettais les vêtements de sa fille, on avait la même taille, on avait le même âge, on se ressemblait d'ailleurs avec les coupes au carré. Nous, on avait des vêtements pourris qui venaient du Secours catholique parce qu'on n'avait pas un rond. Et j'avais un peu honte de la façon dont on était habillés. Et cette famille-là était bien plus aisée. Et donc, ils avaient une vraie garde-robe avec des vêtements dignes de ce nom, neufs, tout doux, qui n'avait pas fait le frère, la sœur. Et donc, je crois que j'aimais bien mettre les vêtements d'Isabelle. Et je me souviens très bien des goûters qu'elle faisait et des chocolats chauds qu'elle nous préparait dans une cuisine qui était immense avec une grande table. Et elle nous préparait en vis-à-vis à Isabelle et moi, chocolat chaud et tartines. Mais je me souviens aussi, ils avaient un salon avec cette fameuse moquette blanche à poils haut. Je sais pas, je dirais 2 cm, 2,5 cm, blanche. C'est osé quand même. Et donc là, niette pour les chaussures. Et je me souviens, ils avaient des patins. Et donc on pouvait y aller sans chaussures et on pouvait s'y allonger et on pouvait y jouer parce qu'on faisait pas mal jeux de dés, jeux comme ça et écouter des histoires. Monique, elle avait le temps parce qu'il y avait que 2 filles et elle prenait ce temps-là. Quand elle me coiffait, Monique, on était dans la salle de bain ou dans la chambre d'Isabelle où il y avait un miroir et elle avait, je me souviens, une brosse toute douce comme pour les bébés et ça faisait pas mal, c'est-à-dire oui, ma mère, elle avait beaucoup d'enfants, donc quand elle nous coiffait, c'était pour démêler. Il fallait que ça soit efficace, rapide, c'était un peu l'usine. Donc, raie au milieu et 2 nattes de chaque côté bien serrées pour éviter les nœuds. Donc, vous sentez quand elle les tresse, ça serre. Et chez Monique, c'était plutôt cheveux détendus et barrettes sur le côté. Et elle me mettait devant le miroir. Et elle me coiffait à ce moment-là et elle mettait cette fameuse barrette qu'elle m'avait offerte et me demandant si ça m'allait, comment je me trouvais. Et voilà, c'était tout simple, mais c'était un temps posé où elle prenait soin de moi. Ouais. Je me revois enveloppée par cette femme-là qui était hyper douce. Et je crois que c'est la première fois que quelqu'un s'occupait de moi en m'enveloppant, en me chérissant, avec tendresse. avec un corps en fait. C'était une femme qui avait un corps et quand elle me prenait dans ses bras, je me sentais dans les bras. Un jour, ça s'est arrêté, ma mère est tombée malade et on a quitté la région. Et j'avais 10 ans, donc je sais qu'après 10 ans, je ne suis pas allée chez Monique. Je ne sais pas ce que Monique est devenue. On est parti de façon assez brutale et je ne l'ai pas revue. Et je ne sais même pas si elle est aujourd'hui vivante ou morte. Monique, c'est la première adulte qui m'a donné de l'affection individuellement. À moi. Mais c'est pas ma mère. Monique me montre ce qui aurait pu être possible dans une vie normal. Dans cette famille, j'existais. Quelqu'un me regardait, prenait le temps de me regarder, voyait s'il faisait attention à moi. Et donc j'espérais toujours qu'en rentrant au bout de plusieurs semaines dans cette autre famille, j'espérais qu'en arrivant chez moi, mon absence aura manqué ou aura... Ils auront réalisé que j'existais, puisque je n'étais plus là. Peut-être que mon absence aurait pu laisser une trace auprès de ma mère plus importante que ma présence. Et donc j'espérais toujours que ma mère puisse se dire que je lui avais manqué, par exemple. Mais dans mon souvenir, ça n'a pas fonctionné. Je pense que j'ai été vraiment dans une quête de perfection pour attirer leur attention chez moi. Et donc je n'ai jamais désobéi, je n'ai jamais pas fait mes devoirs, je n'ai jamais dit un mot au-dessus de l'autre, J'ai fait tout ce qu'on me demandait, voire plus que ce qu'on me demandait. J'étais parfaite. Je suis restée parfaite jusqu'à ce que je sois moi-même maman. Et là, tout a valdingué. Pour de bon. Merde. Pendant longtemps, j'ai pas voulu d'enfant. Après, ça m'a manqué et j'en ai voulu. Et donc, j'ai accouché 2 jours plus tard. On est reparti. J'ai pas voulu prendre ma fille pour l'amener avec nous. J'ai voulu la laisser à l'hôpital. On était à l'accueil et je l'ai donnée à la dame qui était sur la borne d'accueil en disant qu'en fait, je ne serais pas capable de m'occuper de ma fille et que je préférais qu'il la garde. Et elle m'a dit, vous êtes juste un petit peu fatiguée, vous verrez après, ça va aller. Oh non, je crois que ça ne va pas aller du tout. Vous la gardez, ça sera beaucoup mieux. Mais non, je suis repartie avec. Ils ne me l'ont pas gardée. Et j'ai rejeté ma fille énormément pendant les 3 premières années de sa vie. Je ne pouvais pas l'aimer. Mais je pense que je n'ai pas reçu et donc je n'ai pas réussi à donner, tout simplement. J'avais envie de changer d'enfant. Je trouvais que tous les autres enfants étaient super, sauf la mienne. Mais c'est possible de rompre le cycle du désamour maternel. Je me suis dit que... La tendresse de Monique, je l'avais bien éprouvée, moi. Donc c'était possible, ça existait. Et que peut-être que je pourrais l'éprouver. Et j'ai pu rééprouver cette tendresse-là. Et quelque part, elle est en moi. Je suis devenue mère, ouais, je suis une maman. Ouais. Et ça va. Aujourd'hui, j'aime ma fille. Et... nécessairement, elle le sent, parce que je sens que mon amour est sincère, c'est le mien. On a des câlins, on a des mots d'amour, et dans les câlins avec ma fille, on peut retrouver la couleur de Monique. Si je la revoyais, bah, je pense que ce dont j'aurais envie, c'est très d'un câlin angora. Ouais, un câlin angora sur la moquette blanche. Ça serait bien. Ça serait bien.
Je m'appelle Cathy. J'ai eu une nourrice à partir de mes 3 mois qui s'est occupée de moi jusqu'à mon entrée à la maternelle, à mes 3 ans. Quand ma mère était enceinte, elle l'a rencontrée dans notre immeuble. On habitait dans une grande tour à Paris et ma nourrice habitait dans ce même immeuble. Elle venait d'Iran. Elle est arrivée quelques années après la révolution iranienne et elle est venue avec son époux et sa fille. Et un jour, ma mère l'a rencontrée dans l'ascenseur avec sa fille. Elle discutait avec la fille qui parlait français, ma nourrice à l'époque ne parlant pas français. Et sa fille donc explique que ma nourrice vient d'arriver, qu'elle cherche du travail, ce qui donne à réfléchir à ma mère. Et comme ma nourrice est une femme qui est très polie, très élégante, donc je peux imaginer aussi que ma mère, elle a été séduite par la douceur, l'élégance de cette femme très charmante en fait. Et c'est comme ça qu'a commencé cette histoire. Cette femme est devenue ma nourrice et c'est vrai que j'ai eu 2 relations finalement d'amour de type maternel très différentes par ma mère et par ma nourrice et elle venait chez nous et elle s'occupait de moi à la maison et elle me donnait à manger, elle s'occupait de moi toute la journée, on faisait des sorties ensemble mais pour moi en tout cas c'est surtout les souvenirs de la relation qu'on a construite par la suite qui sont très forts. Elle me parlait en français quand j'étais enfant pour qu'on puisse communiquer, mais elle gardait aussi beaucoup d'expressions dans sa langue que moi j'entendais en fait comme des petites chansons mais que je ne comprenais pas. Par exemple, pour dire mange, on va dire bohor. Et quand je mangeais et qu'elle était heureuse de me voir manger, elle me disait bohor, 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 bohor. Ou alors, elle m'appelait souvent princesse ou ma fille. Et donc, elle me disait bohor, bohor, shaz de khanoum, bohor, bohor, azizam, bohor, bohor, dokhtaram. Et moi, en fait, finalement, je devinais qu'elle me disait ma fille, ma chérie, ma princesse. Et l'amour de ma nourrice, il était comme un trésor. À chaque fois que je la retrouvais, j'avais l'impression de retrouver un trésor que je ne partageais avec personne d'autre et qui se faisait dans une langue que personne ne comprenait, même pas moi. Une langue ou des mots qui m'étaient destinés et qui n'existaient pas pour les autres. Donc, moi, j'ai aussi développer une relation affectueuse en fait à sa langue maternelle qui ont fait que pour moi le persan est toujours une langue très douce, pleine d'affection et aujourd'hui je parle persan parce que je l'ai appris par la suite et maintenant je l'entends toujours me dire ces choses que j'entendais déjà dans mon enfance et je les comprends. J'ai aussi des souvenirs du bain avec ma nourrice où il y avait de l'attention partout, des attentions que je ne trouvais pas chez moi et qui me touchaient énormément. Par exemple, elle avait toujours le souci de me mettre des vêtements chauds sur le corps. Elle avait préparé à l'avance mon pyjama qu'elle avait mis sur le radiateur pour que à la sortie du bain, je puisse porter un pyjama tout à fait chaud. Il y avait un tel cérémonial chez ma nourrice pour ces choses-là. Pour moi, elle a toujours cherché avant tout à me faire plaisir, à me gâter, à me donner du bien-être, à me traiter comme une princesse. Et c'est vrai qu'elle reste avant tout comme une bonne fée. Et pour moi, c'est un amour maternel parce que dans mes souvenirs, elle m'a toujours appelée sa fille. C'est quelqu'un qui me porte une affection, une attention pour moi qui ressemble à celui d'une mère, une tendresse qui est sans limite. À l'époque, j'avais des images de ce que ma nourrice m'avait raconté de son pays. J'imaginais des montagnes un peu désertiques. Et puis, surtout pour moi, l'image que j'avais de l'Iran, en fait, c'était les photos qu'elle m'en montrait. Donc c'était beaucoup de visages de sa famille. Et souvent, c'était des photos qui dataient un peu. Donc c'était une manière de s'habiller, une manière de porter la moustache pour les hommes, une manière de se maquiller pour les femmes. Parce que souvent, c'était des photos avant la Révolution ou des photos prises dans la sphère privée, donc c'était pas des photos de femmes voilées en noir comme on pouvait les voir à la télé ou par ailleurs, c'était plutôt des photos où les gens étaient très élégants, mais avec un style des années 70. En fait, l'image que je me faisais de son pays, c'était à travers les objets que je voyais chez elle, les tapis, les marqueteries, des images d'oiseaux, donc sur les objets, ça va être beaucoup de fleurs, plein de couleurs, des couleurs chaudes, plein d'odeurs, tout l'artisanat que je retrouvais chez elle. Pour moi, tout ça, c'était l'Iran, en fait. Et avec cette langue très douce et cette chaleur, en fait, que je trouvais chez elle. Et elle me disait toujours, ma fille, quand tu seras grande, on ira ensemble dans mon pays. Dortalam, Yelouz, Boham, Mirim, Keshfar et Manu Bebinim. J'ai reçu un amour très fort de ma mère, mais qui était aussi un amour blessé, si je peux dire, parce que c'est vrai qu'elle a été malade dès mon enfance. Elle a eu plusieurs cancers, donc elle a eu plusieurs fois des maladies, donc elle est décédée à mes 15 ans, mais finalement, ma nourrice, elle m'a permis de faire... Elle a fait vivre, en fait... ma mère, après son départ, c'est vrai que même sans ma mère... en étant auprès de ma nourrice, j'avais l'impression de retrouver la présence maternelle. Elle a continué, comme par le passé, à me proposer de venir chez elle pour partager un repas, pour dormir, pour passer une nuit. Elle m'a toujours dit que sa maison était ouverte, j'ai toujours eu les clés de sa maison. Donc elle avait toujours ce souci de me donner un foyer. Ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ma nourrice après le départ de ma mère. Et je pense que j'ai surtout compris à ce moment-là la chance que j'avais d'avoir cette femme dans ma vie.
Salam, salam.
Salam, bonjour.
T'as retrouvé, moi ?
Vas-y.
Entre, entre. T'as retrouvé, madame ?
Très bien. Ah, sent bon.
Je vous fais quelque chose pour...
Mais elle veut nous préparer quelque chose pour boire. Un petit apéritif. C'est pas possible qu'on s'assoie sans manger quelque chose ou boire quelque chose. Elle a préparé une petite spécialité iranienne qui s'appelle le mirza rosemi, avec aubergines, tomates, de l'œuf.
Vous pouvez m'en couper et manger, c'est bien.
Je sers tout le monde. Tu en veux aussi un peu ?
Moi, non.
Non ?
Non.
C'est juste pour nous, alors. C'est important que nous, on mange. Mais elle ne mange pas.
C'est bon ? Les oignons aussi, c'est bon ?
Délicieux. C'est quelqu'un qui m'a fait comprendre à quel point l'amour pouvait faire traverser des frontières. Et finalement, par une rencontre entre ma mère et sa fille, un jour dans l'ascenseur, et cette femme, elle a occupé un rôle essentiel dans ma vie et elle a complètement bouleversé ma vie parce que je me suis aussi attachée à son pays. C'est vrai que j'ai voyagé dans son pays plusieurs fois. Finalement, à mes 17 ans, j'ai décidé d'apprendre le persan parce que j'avais envie de pouvoir parler dans sa langue, que finalement cette langue, je me rendais compte que elle me touchait beaucoup, qu'elle faisait partie de moi, donc et aujourd'hui je parle persan avec elle, donc c'est vrai que par la suite finalement je me suis retrouvée à faire ma vie avec un Iranien. Aujourd'hui mon petit garçon, il est franco-iranien. Aujourd'hui son histoire, ça fait partie de ma vie.
ma grand-fille.
Vous dites ma fille.
C'est mon corps. C'est ma fille. Je ne peux pas dire l'autre.
c'est ma vie. C'est tout mon corps. Parce que je l'aime. Je l'adore.
Pourquoi tu es émue?
Je sais pas. C'est Dieu qui m'a donné tout.
Qui t'a donné l'amour?
L'amour.
L'expérience de l'amour de ma nourrice m'a donné une force parce que je pardonne plus facilement. Je suis pas dans la peur que l'autre puisse me blesser parce que j'ai connu un amour suffisamment fort et bienveillant pour pouvoir avoir le cœur paisible. C'est un amour en fait qui est source de paix pour moi parce que c'est comme si en fait elle m'avait donné suffisamment d'amour que moi je débordais d'amour. خانم میگن که یه جور دیگه حرف بزنیم الان دو دقیقه که انگار نیستش ما معمولا با هم چه جوری حرف میزنیم
آره
چون من
مثلا حرفی که مثلا من و تو هم دیگر رو میبینیم پسر چطوره
خیلی حالش خوبه
تا حالش بهتره مادر جان
حالش بهتر شد دیگه درد نداره استراحت کرده و حالش خوب شده
دیروز که خیلی خوب بود
آره خودت خبر داری از خانواده همه خوبن
ناز و عزیزم پسر ریز و تر و تمیزم آفتاب سر اومد مهتاب میتابه بچه یه کوچیک آروم میخوابه لا 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 La 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 Bado be khune peste ye khandum surat mahet gole to goldu shahan shirini ande to khandum
C'était D'autres mères que la sienne, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy. L'attaché de production, c'est Aurélie Marcy avec Abdel Rahim Chekroun. Merci bien sûr à Mathilde, à Cathy, à Sanounou, ainsi qu'à Sébastien Lopoukine, que je ne cite pas assez, qui est pourtant notre bonne fée, notre halo parent à nous au pied sur terre.